Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Un scénario de film catastrophe dans les Alpes suisses. Le réchauffement climatique fragilise la montagne. Des millions de mètres cubes de roches menacent d'ensevelir un village. Reportage sur place, vous l'entendrez, le risque pourrait bien à terme concerner toute la chaîne des Alpes. De l'urgence climatique à l'urgence sanitaire. Pas de couvre-feu ni de nouvelles fermetures face à la flambée Omicron. Mais le gouvernement instaure le télétravail obligatoire et réintroduit des jauges dans le milieu culturel. Réaction des premiers concernés dans ce journal.
Dans 20 minutes, Yael Gauz reçoit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Du jour au lendemain, ils ne peuvent plus travailler. Des Algériens vivant en France, victimes d'un bug en voulant renouveler leur titre de séjour, on va vous raconter. Et puis le blues de l'escrimeuse. Rencontre ce matin avec Isaora Tibus, victime de dépression après les Jeux de Tokyo. C'est notre série sur les sportifs de l'année.
Jusqu'à 20 degrés attendus cette semaine dans le sud, 15 dans le nord, douceur exceptionnelle pour une fin décembre.
8 degrés de plus que la normale, c'est rarissime en plein hiver. Impossible pour l'instant de faire le lien direct avec le réchauffement climatique, mais les spécialistes préviennent, avec le dérèglement du climat, il va falloir quand même s'habituer à des hivers de plus en plus doux. Et s'il y a bien un endroit où les conséquences de ce réchauffement se font déjà sentir, ce sont les Alpes. Nous partons ce matin pour Kandersheim. En Suisse, ce village est menacé par la montagne qui le surplombe. Haute de 3000 mètres, elle risque tout simplement de s'écrouler et les habitants doivent apprendre à vivre avec. C'est le reportage de Jérémy Lanche.
Je m'occupe des dangers naturels depuis 22 ans maintenant. J'ai rien vu comme ça jusqu'à présent.
Même pour un géologue confirmé comme Jörg Aberlé, il est parfois difficile d'imaginer qu'une montagne est capable de se déplacer de 18 mètres en 3 ans. En cause, le permafrost qui s'est réchauffé au point de laisser l'eau et l'air chaud pénétrer au cœur du massif du Spitzsteig, avec le risque de voir 20 millions de mètres cubes de calcaire et d'argile s'effondrer et menacer les digues de protection du village de Kandersheim en contrebas.
Une partie sera déposée, mais si ce dépôt est rempli, là on ne peut plus rien faire que évacuer les gens.
L'évacuation, c'est la mission dans la commune de Patrick Meder qui craint autant le Spitzsteig que la lassitude des habitants face à un risque majeur, mais impossible à prévoir.
S'il faut évacuer 6 fois dans une année et il ne se passe rien, la population va commencer à demander pourquoi on fait ce truc.
Le maire de la commune, René Meder, lui, préfère relativiser le risque sans le minimiser pour autant, car ce qui se passe à Kandersheim pourrait se reproduire n'importe où dans les Alpes.
Toutes les stations, on devra investir dans la protection des villages. Mais il y aura partout un risque. Ça, on ne pourra pas éviter.
En attendant, la commune se tient prête. Les scientifiques estiment pouvoir alerter la population 48 heures avant que l'éboulement n'ait lieu. À Kandersheim, Jérémy Lanche, France Inter.
Un réchauffement dans les Alpes, intempéries sur le continent américain, au Brésil, des trombes d'eau continuent de s'abattre sur l'état de Bahia dans le nord-est du pays. On compte désormais 20 morts dans ces inondations et près de 63 000 habitants déplacés. Dans l'ouest des États-Unis, c'est la neige qui perturbe les transports et entraîne des coupures de courant, chutes massives ces dernières 24 heures. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour la Californie, confrontée ces derniers mois à une sécheresse chronique.
Face à la déferlante Omicron, l'exécutif choisit des contraintes limitée.
Les médecins demandaient ce week-end de décaler la rentrée scolaire. Il n'en est rien. Elle est bien maintenue lundi. Pas de couvre-feu non plus pour le réveillon du 31. Il faut une réponse proportionnée, estime Jean Castex. Pour le Premier ministre, ça passe donc par du télétravail obligatoire au moins 3 jours par semaine. Partout où c'est possible. C'est aussi le retour des jauges. Dès lundi, 5000 personnes maximum en extérieur, 2000 en intérieur pour les grands rassemblements. Interdiction des concerts debout. Interdit aussi d'enlever son masque au cinéma pour manger du pop-corn. Qu'en disent les professionnels de la culture? Réaction recueillie par Amélie Perrier.
Ils ont envisagé le pire, la fermeture des théâtres et des salles de concert. Alors ce matin, ils sont rassurés à l'image de Nicolas Dubourg, le président du Syndéac, le syndicat du spectacle vivant.
Pour une fois, j'ai la sensation que ce gouvernement a mis la culture quelque part au niveau où sont les écoles dans les priorités. et qu'on ne peut pas fermer les théâtres, on ne peut pas fermer les lieux de culture.
L'interdiction des concerts debout va quand même contraindre les salles de musique actuelle, notamment à tirer le rideau. Autre mesure pour les cinémas, l'interdiction de consommer des aliments et des boissons pendant les films. Une surprise pour Richard Patry, qui dirige la Fédération nationale des cinémas français.
Pour être franc, on ne s'attendait pas du tout à cette mesure, on n'en a jamais parlé. C'est pour 3 semaines, c'est à partir de lundi, on va vivre avec.
Le pop-corn peut représenter jusqu'à 20% des bénéfices des cinémas. Ajouté à la baisse de fréquentation, les professionnels attendent donc le retour des aides financières.
N'oublions pas quand même que nous sommes déjà à moins 20%. Hein. Enlever en plus des recettes, ça ne va pas améliorer notre situation, ça va même plutôt la dégrader. Surtout que la mise en place du pass vaccinal, clairement, va aussi redonner un coup de frein. C'est absolument obligé. Il est clair qu'économiquement, il va falloir nous aider encore une fois à tenir le coup.
Et le secteur compte aussi sur le public pour continuer à venir voir des films, du théâtre et des concerts, plus nécessaires que jamais pour s'évader un peu.
Pas de concert debout, pas de verre debout non plus dans les bars, il faudra rester sagement assis à table pour consommer. La France fait donc un choix différent de certains voisins européens, pas de restrictions trop fortes, mais la vaccination encore et toujours en accéléré, délai réduit entre la deuxième et la troisième dose, seulement 3 mois désormais. Et après, faudra-t-il une quatrième dose, comme l'expérimente déjà Israël? Le ministre de la Santé ne l'exclut pas, Olivier Véran.
C'est une possibilité. D'ailleurs, on voit remonter des demandes qui émanent de personnes fragiles, parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles sont malades, qui ont reçu leur troisième dose en septembre, et qui s'inquiètent de savoir si elles doivent à nouveau réactualiser leur vaccination pour pouvoir être protégées dans la durée contre le variant Omicron. Il faut qu'on puisse leur apporter une réponse. Je n'ai pas la réponse à vous apporter aujourd'hui. On travaille au niveau international, donc je n'ai pas la réponse formelle à vous donner. Je vous dis juste qu'on est totalement ouvert à cette perspective, et que le plus simplement du monde, en transparence et le plus naturellement du monde, s'il faut aller devant les Français pour leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons.
Mais avant une hypothétique quatrième dose de vaccin, l'urgence pour le gouvernement, c'est la mise en œuvre du pass vaccinal en lieu et place du pass sanitaire dans certains lieux. Le texte sera discuté dès demain en commission à l'Assemblée nationale pour une mise en œuvre prévue dès la mi-janvier. Mais d'ici là, la bataille politique s'annonce rude, Antoine Gignot.
Dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon qui parle de méthode brutale, les députés de la France insoumise fustigent un texte discriminant, inadapté. Pour Éric Coquerel.
On se trompe de route à partir du moment où on pense que seule la survaccination est efficace. Il faudrait qu'on puisse proposer une alternative. Par exemple, le fait de présenter un test ou un autotest du jour même.
Et c'est le même discours à l'extrême droite. Marine Le Pen met en avant la perte des libertés individuelles et une obligation vaccinale déguisée. Tout comme Anne Hidalgo, la candidate socialiste, les élus PS, eux, sont plus mitigés. Ils dénoncent le cynisme du gouvernement, mais se disent prêts à voter en faveur du projet de loi, comme la majorité des députés, les Républicains, à l'image d'Éric Pogé.
Moi, je suis favorable à ce qu'on utilise l'outil du pass vaccinal. Par contre, moi, je suis à titre personnel fermement opposé à ce que le contrôle d'identité soit fait notamment par des restaurateurs, des hôteliers ou des bistrotiers, parce que c'est pas leur travail.
L'autre source d'inquiétude à droite, c'est l'extension éventuelle du pass vaccinal à toutes les entreprises, pas inscrite pour l'instant dans le texte, mais qui pourrait émerger dans le débat au détour d'un amendement.
Antoine Gignot, quant aux règles d'isolement, elles vont bien évoluer, mais il faudra attendre la fin de la semaine pour en savoir plus. C'est le choix que viennent de faire aussi les autorités américaines. Aux États-Unis, l'isolement passe de 10 à 5 jours pour les personnes contaminées, mais asymptomatiques et vaccinées. Quant aux cas contacts pleinement vaccinés, ils n'ont même plus besoin de s'isoler.
Ils se retrouvent sans papier du jour au lendemain.
Le désarroi de certains Algériens vivant en France. En cause, le changement des règles pour renouveler les titres de séjour. Tout fait désormais en ligne. En particulier les certificats de résidence d'un an spécifiques aux ressortissants algériens. Conséquence, les délais de traitement ont parfois doublé, avec des effets très concrets pour leur vie quotidienne, Mathilde Dehimi.
En décrochant un rendez-vous en préfecture, Lila, algérienne, pensait avoir fait le plus dur, car il y avait 2 mois d'attente. Mais en arrivant au guichet, on lui demande finalement de faire sa demande de titre de séjour en ligne.
J'arrive pas à m'inscrire. On m'explique à chaque fois que le problème technique est en cours de résolution et ça fait plusieurs mois.
Entre-temps, son visa expire. La médecin spécialiste se retrouve sans papier.
J'ai eu quelques offres de travail dans des déserts médicaux, mais là, je ne peux même pas aller travailler.
Pour la première fois, je me retrouve dans ces situations illégales.
Sa situation est loin d'être isolée. Yacine, développeur web, a pu lui remplir son dossier en ligne. Il attend depuis 3 mois. Son titre temporaire a expiré et son patron a suspendu son CDI.
Donc là, ça fait plusieurs semaines déjà, juste pour un retard de l'administration. Donc je ne peux pas sortir de France, mais je n'ai pas de titre de séjour valide et je n'ai pas de salaire et je n'ai pas de droit de travail.
Sans récépissé temporaire, impossible de voyager. Sarah est doctorante à Polytechnique.
On est arrivé en France avec une compétence, avec quelque chose à donner à la société. C'est quand même injuste de nous traiter de cette manière-là et surtout à part par rapport aux autres.
Car ses collègues étrangers n'ont pas ces problèmes, souligne Sarah, inquiète de ne plus pouvoir voyager pour retrouver sa famille ou participer à des colloques.
C'est un pilier des droits de l'homme en Russie. L'ONG Mémorial sera-t-elle interdite avant la fin de la semaine ? La Cour suprême russe se penche aujourd'hui sur une demande de dissolution déposée par le parquet.
Après les Jeux de Tokyo et avant ceux de Paris, notre série sur les sportifs français de 2021.
Ils ont marqué l'année par leur performance, mais pas seulement. Certains nous ont aussi émus, comme l'escrimeuse Isaura Tibus, éliminée au deuxième tour des JO cet été, ce qui lui a valu une dépression à son retour en France. Depuis, Jérôme Val, elle milite pour une meilleure prise en compte de la santé mentale des athlètes de haut niveau.
Isaura Tibus en a pleuré. Elle a raconté ses moments de détresse, seule, loin des salles d'entraînement, inconsolable malgré une médaille d'argent offerée par équipe, mais un échec cuisant en individuel. Son retour à terre a été brutal, mais il fallait l'exposer au grand jour.
C'était important pour moi d'en parler, pas à titre personnel, mais plus pour libérer la parole sur le fait que c'est quelque chose de normal dans le sport d'avoir des moments de doute ou des moments de moins bien, de dépression.
Une prise de parole courageuse qui brise un tabou dans un milieu du sport où il faut souvent paraître invulnérable, une image loin de la réalité pour Isaura Tibus.
Il y a beaucoup d'athlètes qui m'ont répondu, qui m'ont dit ben merci parce que nous aussi on traverse ce genre de moment, qu'on s'est retrouvé dans ce que tu as dit et qu'on se sent moins seul.
Cet été, la gymnaste américaine Simone Biles a ouvert le débat comment mieux prendre en compte la santé mentale des athlètes. Les choses commencent à bouger, se réjouit la Guadeloupéenne.
Il y a beaucoup d'évolutions dans l'accompagnement psychologique des athlètes parce qu'on vit des émotions, on vit des choses très intenses. Après la victoire, il en faut une autre. Donc il y a toujours ce sentiment d'insatisfaction. Il n'y a jamais de pause.
Isaura Tibus a repris l'entraînement il y a quelques jours, apaisé et plus déterminé que jamais.
Jérôme Val pour ce portrait d'Isaura Tibus.
Dans le journal d'Alexis Morel.